Donc, nous venons de lire Actes 3, versets 1 à 11, et nous sommes ici avec la première description d'un miracle dans le livre des Actes. Au chapitre 2, verset 43, regardez un petit peu avant, il dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. » Ici, ce verset ne détaille pas, simplement il dit « Voilà, il y avait beaucoup de miracles ». Et de prodiges. Et puis quand on arrive dans le chapitre 3, alors là par contre, il y a une description précise du premier miracle fait par les apôtres. Et avant de puiser notre nourriture dans le texte, j'aimerais faire juste une courte introduction sur le sujet des guérisons miraculeuses. Le commencement de l'Église de Jésus-Christ a été accompagné de nombreux miracles et prodiges. Et nous croyons que Dieu continue à faire des miracles aujourd'hui. Mais il est clair que ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui était à l'époque donc du début du livre des Actes. Et enfin, simplement si on est honnête et on regarde, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre l'époque et aujourd'hui. On peut dire que ce qui était la règle à l'époque est devenu une exception aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu appuyer l'autorité des apôtres et il le fit par des signes, par des prodiges et par des miracles. C'est ce qu'on lit par exemple, donc je vous le lis en 2 Corinthiens 12:12. Il est dit, Paul dit, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Par des signes, par des prodiges et des miracles. Quelles étaient les preuves que Paul était réellement un apôtre ? Une patience à toute épreuve et des signes, des prodiges et des miracles. Ça authentifiait, voilà, je suis apôtre, regardez, voici la preuve. En Hébreux 2, chapitre 2 et versets 3 et 4, nous lisons « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur » nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu, eh bien, c'était les premiers disciples et notamment les apôtres. Et il dit, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu a voulu appuyer le témoignage des premiers disciples et des apôtres en leur donnant cette grâce de faire nombre de prodiges et de miracles. Et on voyait bien que le don de guérison eh bien, se manifestait avec force parmi ces premiers chrétiens. En Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous lisons que l'Église a été édifiée sur le fondement des prophètes, et des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les apôtres sont le fondement, c'est la base, c'est en dessous, c'est ce sur quoi on vient se reposer. Le fondement, eh bien, a été donné par les apôtres et les prophètes. Et ensuite, l'Église s'est édifiée avec quoi ? Avec les évangélistes, avec les pasteurs et avec les docteurs. Et l'Église a commencé à grandir et à s'édifier, mais on avait le fondement donc des apôtres. Et le don de guérison, tel qu'il pouvait se voir à l'époque, a disparu aujourd'hui. Tel qu'il était à l'époque, il a disparu aujourd'hui. Pourquoi ? On voit bien, il y a une volonté de guérir même aujourd'hui et de guérir avec zèle. Et au hasard des foules, eh bien, une guérison ici, une guérison là, voilà, on proclame la guérison, on crie même pour guérir. À noter que dans les Écritures, on ne crie pas pour guérir. Simplement, on parle et la guérison vient. Et donc, on cherche, et parce qu'on veut le bien des hommes, on cherche les guérisons. Mais les guérisons ne sont plus comme autrefois du temps des apôtres. Dieu veut faire grâce. Et je crois que Dieu fait grâce même dans ces circonstances, et qu'il guérit parfois, et il y a une guérison, effectivement, parce que Dieu aime les hommes et Dieu continue à bénir et continue à guérir. Mais ce n'est pas comme à l'époque, parce qu'à l'époque, tout le monde était guéri. Il n'y avait pas d'exception. Tout le monde était guéri. Regardez chapitre 5, 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et je souligne cette dernière phrase. Tous étaient guéris. Pas d'exception. Ils étaient foules, des malades, pleins. Au moins que l'ombre passe, parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper, tellement il y en avait. Ils ne pouvaient pas s'occuper de tous. Mais tous étaient guéris. Cela, eh bien, on ne le voit plus aujourd'hui. Si on le voyait, croyez-moi, on le saurait. Il y aurait des hôpitaux qui fermeraient, la sécu n'aurait pas de déficit et tout irait bien. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors Dieu guérit toujours. Il guérit en réponse à la prière. Et on a des témoignages de guérison autour de nous. C'est une réalité. On prie pour les malades et on devrait prier d'ailleurs. Hein. Et quand on est malade, on devrait prier. La tendance rapide, c'est oh, on va appeler le médecin. Mais peut-être on devrait commencer par prier. Il faut se souvenir d'Asa, hein, qui n'a pas cherché à consulter Dieu quand il était malade. Et voilà. Hein. Dieu veut guérir, mais il ne guérit plus d'une manière systématique et universelle, où tout le monde est guéri. Ça, eh bien, ça n'existe plus. Il n'y a personne qui a ce don de guérison qui lui permet de guérir tous les malades. Et pour preuve, et je clôt ce sujet, Paul, qui avait tous les dons, et donc le don de guérison, il dit « J'ai laissé Trophime, l'homme Trophime, malade à Milet. » Je l'ai laissé, j'ai pas pu le guérir. C'est une preuve, ça. Donc ça veut dire qu'à la fin du ministère de l'apôtre Paul, nous sommes dans 2 Timothée. Donc 2 Timothée, c'est la fin de son ministère. À la fin de son ministère, déjà, il commençait à y avoir un changement. Paul, eh bien, n'a pas pu guérir Trophime. Le temps des guérisons systématiques était passé parce que le témoignage des apôtres avait été appuyé. Maintenant, eh bien, l'Évangile partait sur une base solide et la parole de Dieu pouvait se répandre. Alors, revenons à notre texte. Il y a 15 jours, nous avons vu ce qui était le fer de lance, on peut dire, de cette église primitive, cette première église. C'était un esprit de bonne volonté, en sorte qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc Dieu poussait ces nouveaux convertis à se rencontrer, à s'aimer, à prier ensemble, et puis il répondait positivement par un esprit de bonne volonté, par de la persévérance, une envie d'être ensemble. Mais j'aimerais qu'on ajoute une cinquième chose, qui fait que cette église était une bénédiction, qu'elle était un fer de lance. Acte 3, verset 1, on va relire petit à petit notre texte. D'abord le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et là, eh bien, on retourne un petit peu avec ce qu'on avait vu il y a 15 jours. D'abord, on lit, ils montent ensemble. C'est un petit mot. Mais c'est quelque chose qui nous parle. Hein. On peut de nouveau parler de la communion, de l'unité. Il y avait de l'amour, il y avait de la communion fraternelle. Ils marchent ensemble, ils montent ensemble, ils sont contents d'être ensemble. D'ailleurs, quand Jésus envoyait les disciples, il les envoyait 2 à 2. Donc, il y a toujours cette idée de, voilà, celui qui se tient à l'écart, dit la Bible, celui qui reste isolé, eh bien... Il y a un problème, ça ne va pas. Hein. Le proverbe dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il ne cherche pas ce qui plaît à Dieu, il cherche ce qui lui plaît à lui dans son cœur. Et il y a un problème. Alors, eh bien, il faut qu'on persévère dans cette communion fraternelle ensemble. Mais non seulement cela, mais Pierre et Jean montent ensemble, il dit, au temple, à l'heure de la prière, un désir d'aller à la maison de Dieu, un désir d'aller à la prière, au moment où on va invoquer le Seigneur ensemble. Et on retrouve ici l'exhortation, hein, l'enseignement, la prière. Hein. Moment de la prière, ce n'est pas toujours le plus populaire, mais la prière, c'est essentiel. Maintenant, lisons la suite. Acte 3, versets 2 à 6. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et on est ici avec une cinquième chose qui est importante et qui fait que l'Église, eh bien, est un fer de lance. C'est le fait de donner ce que l'on a reçu. Donner ce que l'on a reçu. Pierre et Jean passent donc devant cette porte, à cette porte, la Belle, devant ce boiteux, et là, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'un boiteux ? C'est un homme qui ne peut pas tenir debout dans sa vie. Il ne peut pas marcher correctement dans sa vie. Il peut se traîner. Et probablement, il se traînait parfois quand il voulait un petit peu se déplacer. Il nous est dit qu'on le portait chaque jour. C'est pas simplement qu'il boitait, c'est qu'il n'arrivait pas à se tenir debout. Il n'arrivait pas à se tenir sur ses deux jambes. Il n'arrivait pas à marcher. Et naturellement, eh bien, il ne serait jamais réussi. Il n'aurait jamais réussi à marcher sur ses deux jambes, à moins que Dieu n'intervienne. Et on a là une image de nous-mêmes. Derrière ce boiteux, on peut voir l'humanité entière. L'humanité, tous les hommes. On pense qu'on marche droit, que tout va bien dans notre vie, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis notre naissance, on peut dire que chaque homme ne marche pas correctement dans sa vie. Et il ne pourra jamais marcher correctement dans cette vie, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, la parole de Dieu dit. Et à cause de cela, on a besoin d'une guérison pour qu'on puisse marcher droit selon Dieu. Les proverbes dans la Bible nous disent « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite. On se dit « Mais non, tout va bien là. Je suis sur un chemin bien droit, je marche droit et tout va bien. » Et Dieu dit non, l'issue, c'est la voie de la mort. Tu te leurres, tu te trompes. Tu es sur la voie de la mort et tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Parce qu'on se regarde soi-même au lieu de se regarder par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut se mettre face aux Écritures et se regarder par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je marche droit ? Je lis la Bible et je regarde. Est-ce que je marche droit par rapport au Seigneur ? L'homme croit que sa voie est droite, mais l'issue, c'est la mort éternelle. C'est être loin de Dieu à cause de son péché. La réalité, c'est que nous sommes par naissance des boiteux. Nous avons une marche qui est désaxée, qui n'est pas droite. Et on peut tous le comprendre, nous ici, si nous sommes enfants de Dieu, on peut tous le comprendre, parce que nous aussi, la Bible dit, nous étions autrefois, par nos offenses, morts, et par nos péchés, morts, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ça veut dire que notre marche, elle était boiteuse, elle était désaxée, elle n'était pas droite, et pour chacun. Et on peut répéter ces paroles que Paul a prononcé dans Éphésiens, où il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Tous pareils. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, Christ a tout changé. Christ a tout changé parce qu'on on a cru en lui, parce qu'on s'est repenti, parce qu'on s'est placé devant la parole de Dieu et que, eh bien, on a reconnu, c'est vrai, ma marche n'est pas droite, mais je veux trouver la paix, je veux trouver le repos. On a chanté tout à l'heure, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, C'est ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner le repos dans l'âme. Mais c'est possible uniquement quand on se repent et qu'on place sa foi en Jésus-Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un enfant de colère, mais un enfant de Dieu. Mais sommes-nous dans une bonne santé spirituelle? Est-ce que nous sommes en bonne santé spirituelle? Si nous le sommes, alors nous allons non seulement demeurer ensemble, nous allons avoir envie de prier ensemble, mais nous allons aussi donner ce que nous avons reçu. Regardez verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Pierre et Jean n'avaient rien. C'est pour ça qu'il dit, « Mais regarde-nous. On n'est pas habillés avec des étoffes fines, de luxe. On n'a pas grand-chose. Regarde-nous. » Ni argent, ni or. Mais ils ont quelque chose qui est bien plus important que l'argent et l'or. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils regardent cet homme et ils ont la foi que Dieu peut le guérir de son infirmité. Parce que c'est la foi qui a guéri ce boiteux. Bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre, tout de suite, hein, quand il a vu que tout le monde se rassemblait, il s'est vite protégé. Et il a dit, regardez, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Et il est clair que cette guérison, elle venait de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu. C'est lui qui opère la guérison. C'est lui qui a raffermi les chevilles de ce boiteux. Mais qu'est-ce qui lui permet de le faire? Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a fait? Eh bien, c'est la foi. C'est la foi. Regardez verset 16. On peut le relire. C'est par la foi en son nom que son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et je pose la question, de quelle foi s'agissait-il? À qui appartenait cette foi? Est-ce que c'était la foi du boiteux ou est-ce que c'était la foi de Pierre et de Jean? Quel était ce quelque chose qui s'attendait à recevoir d'eux? Ce quelque chose, c'était rien de plus que de l'or et de l'argent. Ils voulaient une pièce. Et voilà, ils se tournent vers eux, ils vont me donner une pièce. Ce n'était pas la foi du boiteux ici. C'était la foi des apôtres. Ce sont eux qui avaient la foi en Dieu, que Dieu pouvait guérir cet homme, que Dieu allait guérir cet homme. Alors, eh bien, ils lui ont donné cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche !» Et ils ont joint à leur parole une action concrète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris par la main droite et ils l'ont levé. Il y avait une action concrète, quelque chose. Et il y a une chose que nous avons et que nous pouvons donner aux hommes, c'est notre foi. C'est notre foi dans leur salut. Notre foi dans leur guérison. Encore faut-il que nous nous arrêtions devant le boiteux. C'est important. Il faut d'abord s'arrêter. Un cœur en bonne santé avec le Seigneur, c'est un cœur qui veut donner ce qu'il a reçu. Il va donc être attentif à celui ou celle qu'il croise, attentif aux pécheurs perdus, aux pécheurs malades, aux pécheurs qui sont autour de lui. À l'époque, il y avait des milliers de croyants qui passaient à la Pentecôte, mais c'était des milliers qui passaient par cette porte belle, qui voyaient ce boiteux et qui ne s'arrêtaient pas forcément, qui ne s'arrêtaient pas. Pourtant, c'était des croyants. Ils ne s'intéressaient pas plus que ça à lui, mais Pierre et Jean se sont arrêtés. Ils ont vu le grand besoin. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or, mais ils avaient la foi. Alors, ils ont placé leur foi sur cet homme. Jésus a dit que la foi peut déplacer des montagnes. Il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous possédons dans la foi une puissance. La puissance qui permet à dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrive. Et Dieu veut que notre foi soit active. Nous croyons en Dieu, c'est bien, mais qu'est-ce que nous faisons de cette foi en Dieu? Qu'est-ce que nous en faisons par rapport aux boiteux qui nous entourent? Est-ce que notre foi, elle est active pour ces personnes qui sont autour de nous? Est-ce que nous voulons croire, simplement, est-ce que nous voulons croire que Dieu va les sauver? Est-ce que notre foi nous rend audacieux pour leur parler de l'Évangile? Pierre a cru que cet homme, eh bien, Dieu allait le guérir. Il a cru. Alors il lui a dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et non seulement cela, mais il l'a pris par la main et il l'a aidé. Hein, lève-toi, tu vas marcher, Jésus va te guérir. Et Dieu veut nous donner la foi à nous aussi, cette foi qui apporte le salut, qui apporte la guérison autour de nous. Mais il faut que notre foi, elle soit active. Et comment notre foi, elle est active? Elle est active déjà quand on commence à prier. Alors là, ça devient actif. Si j'y crois, je prie. Si j'y crois pas, ben je prie pas. Je prie pas ou je prie très très peu. Et c'est pas la quantité de prière là, hein. Entendez-moi bien. Mais quand je crois, eh bien ma foi elle est active. Je prie, je me dis mais oui, Dieu va sauver. Mais oui, Dieu va faire quelque chose. Je le crois. Je prie. Et puis après, ouvrir la bouche. Et parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parler pour annoncer l'Évangile. On se dit parfois, c'est impossible. Je ne sais pas comment faire, je vais m'embrouiller, je ne vais pas réussir. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas le faire. Mais Dieu nous répond, la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, elle est là. Tu as le Saint-Esprit. La parole, elle est là. La puissance, elle est là. L'Évangile, il est là, tu le connais, tu es capable d'en parler, tu es capable de l'annoncer. Tu n'es pas faible, tu es fort. Par l'Esprit du Seigneur, tu es fort. Cette puissance, elle est là, elle est en nous. Il faut qu'elle soit active. On a le message, on a l'esprit de sagesse, mais il faut mettre en œuvre notre foi. C'est croire que Dieu va le faire. C'est comme tendre la main au boiteux et le relever. Ma foi est active. Active, je le fais. Il ne suffit pas de passer devant le boiteux et lui dire au Seigneur, dans son cœur, lui dire au Seigneur, guéris-le. Non. Il faut parler, il faut l'aider, il faut que ce soit actif. Le boiteux était là, tendant la main vers Pierre et Jean à la porte Belle. Pierre et Jean auraient pu aussi le regarder du coin de l'œil, vous savez, comme parfois on fait avec un SDF, hein. On passe, hop. Hein. Ils auraient pu faire ça aussi, c'était possible, pressés d'entrer dans le temple. Et je pense que souvent nous faisons comme cela vis-à-vis des boiteux, enfin je veux dire des pécheurs. Je pense que souvent, eh bien on fait comme ça. On voit, mais pas plus d'intérêt que ça. Quand quelqu'un a un geste à notre égard, quand il y a, parce qu'ici, il se tourne vers eux, hein, quand il y a un geste à notre égard, hein, quand il y a une occasion qui se présente, alors eh bien, il faut saisir l'occasion. Il faut s'arrêter et donner ce que nous avons reçu. C'est-à-dire mettre notre foi en œuvre active à l'égard de cette personne. Prier, parler, croire que Dieu va faire quelque chose pour elle. Versets 7 et 8, regardez. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Là, on a le résultat de la foi en Dieu. Résultat. Le boiteux se lève d'un bond et il se met à marcher. Ça y est, il met un pied devant l'autre, et il marche droit, il marche correctement. Auparavant, il était incapable de marcher et maintenant il le peut. Et il y a une image ici de la marche avec Dieu. Maintenant, il peut marcher avec Dieu, cet homme. C'est possible. Et le premier fruit de la conversion d'une personne, c'est que Dieu rend l'homme capable de marcher avec lui, d'avoir une communion avec lui. Et mais on lit également que le boiteux entra dans le temple en sautant et en louant Dieu. Et ça, c'est une dernière chose, une deuxième chose, un second fruit de cette rencontre merveilleuse qu'il vient de faire avec ses deux disciples de Jésus-Christ. Le voilà entrant dans le temple. Avant, il était à la porte. Il restait là, à la porte. Maintenant, il entre dedans et il loue Dieu et il se réjouit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il le connaît, il parle avec lui, il le chante, il est heureux, il est dans la joie. On a l'image de la conversion ici qui nous produit une joie intense. Regardez versets 9 et 10. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. On a ici une troisième chose, troisième fruit, c'est que le boiteux guéri devient un témoignage. Il est un témoignage pour tous ceux qui le voient. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas possible. Avant, il ne pouvait pas marcher cet homme. Et aujourd'hui, il marche droit. Quelle image encore du témoignage, d'une conversion. Avant, il était tordu. Il faisait des choses tordues. Avant, il était comme nous. La loi, la droiture. Et maintenant, il marche droit. Il ne veut plus faire ce qu'on fait. Ça, c'est un témoignage. Témoignage d'une vraie conversion. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Et on voit le changement. Quand quelqu'un, reçoit de Dieu cette guérison de l'âme, cette rencontre avec Jésus-Christ, il marche droit. Ce qui faisait que l'Église était un fer de lance, c'était d'abord la volonté de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, mais c'était aussi le fait de donner ce qu'ils avaient reçu. Ils ne gardaient pas pour eux-mêmes ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient foi en Jésus-Christ. Leur foi était active. Elle les poussait à l'action. On le voit par la générosité, mais on le voit aussi par le fait qu'ils partageaient l'Évangile. Ils croyaient, ils priaient pour les autres. Et on a ici un cinquième élément qui fait qu'une église et une âme est en bonne santé spirituelle. Mais pour terminer ce message, j'aimerais poser une dernière question. Comment être en bonne santé spirituelle? Alors, le réflexe naturel, c'est de dire, lisez votre Bible, écoutez des messages, allez au temple, priez, cherchez la communion avec les frères, ne vous privez pas de la fraction du pain, témoignez. Et c'est vrai que lorsque un chrétien fait ces choses régulièrement avec persévérance, c'est probablement les signes d'une bonne santé spirituelle. Mais c'est à la fois les signes et à la fois les fruits d'une bonne santé spirituelle. Ces choses, elles sont là, elles viennent naturellement quand on va bien avec le Seigneur, quand on est en bonne santé. C'est des choses qui découlent. On a envie de donner ce qu'on a reçu. On a envie de partager l'Évangile, on a envie de prier, on a envie d'être avec les frères et sœurs. Ce sont des choses qui peuvent contribuer à être dans une meilleure santé spirituelle, c'est vrai. Mais ce ne sont pas ces actions en elles-mêmes qui produisent une bonne santé intérieure. Parce que si je n'arrive pas à lire ma Bible, si je n'ai pas envie de prier, si je n'ai pas envie de témoigner, si je n'ai pas envie d'être avec les frères et sœurs, alors que faire? Certains vont dire, il faut lire plus, il faut prier plus, il faut témoigner plus. Mais c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on est en meilleure santé spirituelle. C'est pas en serrant les dents et dire, je vais le faire quand même. Si l'envie n'est plus là, si tout est difficile, si on se traîne spirituellement, ce qu'il nous faut d'abord et avant toute chose, c'est rétablir une communion honnête avec le Seigneur. Rétablir une vraie communion avec le Seigneur. Une vraie relation. Si l'envie n'est plus là, c'est probablement que la relation avec Dieu, eh bien, c'est plus ça. Il y a quelque chose qui fait que c'est coupé. La communion est coupée. Et il faut revenir à la source. Revenir au Seigneur. Vraiment, vouloir retrouver cette communion franche, honnête, transparente avec le Seigneur. Et tant qu'on passe pas par là, ben, ça n'ira pas. Le Seigneur nous exhorte à marcher dans la lumière. Et le problème vient peut-être de là. On n'est plus dans une proximité avec le Seigneur. On n'est plus en train de marcher dans la lumière avec lui. On a peut-être pris un peu de distance avec lui. Voilà. Il n'est pas loin, hein, mais il y a un peu de distance. Parfois, on n'en a même pas conscience. Peut-être notre relation s'est fait manger petit à petit par des choses qui sont totalement secondaires, hein, ou qui sont complètement futiles. Dans un monde aujourd'hui où la consommation est un dieu, c'est facile de se faire manger. On se dit, ah tiens, moi j'aurais besoin de ça. Et puis on devient omnubilé là, parce qu'on a besoin de ça, parce que c'est important. Ben, comment je... Voilà, et qu'est-ce qui est le mieux, et on est mangé par plein de choses comme ça. Et alors, eh bien, voilà, la communion n'est plus ce qu'elle était. On a perdu quelque chose. Il faut garder et chérir une communion proche, une communion honnête, une communion vraie avec le Seigneur. Ça, c'est la base. C'est la base. Quand on regarde vers le Seigneur, alors, eh bien, chaque chose reprend sa place. Et puis, soudain, ce qui était très, très important, on se dit, mais... Finalement, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, je ne vois pas pourquoi je me suis bloqué sur ça, là. C'est rien. Je mets ça de côté, non. Vanité, vanité. Je m'occupe du Seigneur. Rétablir une communion honnête. Ensuite, s'offrir en sacrifice vivant. Si nous sommes morts avec Christ, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, nous dit la parole de Dieu, mais nous pouvons malgré tout nous reprendre facilement. Hein? Nous sommes morts avec lui, nous devrions marcher avec lui, mais hop, on se reprend. Et voilà, on a envie de vivre sa vie, au lieu de vivre sa vie à lui. On reprend les rênes de notre vie. Dieu veut nous conduire, il veut nous remplir, il veut nous diriger, mais il ne peut pas le faire si notre vie ne lui est pas offerte. C'est Dieu qui peut créer en nous l'envie, qui peut créer en nous le désir, il crée en nous le vouloir, le faire, nous dit la parole de Dieu. Mais peut-être ce qu'il faut, eh bien, c'est se réoffrir, s'offrir de nouveau au Seigneur, offrir ses membres. Je veux te servir de nouveau, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, remplis-moi, fais-moi grâce. Et puis, une troisième chose, on en a parlé un tout petit peu, vivre dans le repos de la foi. Dans le repos de la foi. C'est Dieu qui a en main notre vie. Il l'a, il la tient. Nous sommes dans sa main. C'est son œuvre et ce n'est pas la nôtre. Et Dieu ne nous veut pas dans une hyperactivité qui soit charnelle. Il veut qu'on marche dans le repos de la foi. Dans la confiance en lui. Si je ne vais pas bien en priant 10 minutes, je ne vais pas aller forcément mieux si je me force à prier 1 heure. Il vaut mieux passer 10 minutes, mais 10 minutes vraies, honnêtes, sincères, de qualité, qu'une heure, voilà, une vraie relation avec le Seigneur. Marcher dans le repos. Dieu nous conduit, il veut nous conduire. Et il faut qu'on soit dans le repos de la foi. Il y a ce verset, hein. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous l'avez reçu par la foi. Marchez en lui par la foi, dans le calme, dans la confiance, dans le repos. Laissez-le le faire. Laissez-le agir. Il faut croire que son œuvre de sanctification, il l'a commencée, il est en train de la continuer dans votre cœur. Et il va l'amener jusqu'au bout. La parole de Dieu dit, c'est lui qui le fera. Le Seigneur est fidèle. c'est lui qui le fera. Il faut le croire, se reposer. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que je suis en bonne santé spirituelle? C'est avant tout ma relation personnelle avec le Seigneur. Si j'aime Dieu et que cette communion, elle est réelle, sincère, honnête, transparente, si je lui offre ma vie, je me repose sur lui, alors ben, j'ai envie de persévérer dans l'enseignement des apôtres. J'ai envie de lire ma Bible. Ce n'est pas un fardeau. J'ai envie de prier. Ça pèse sur mon cœur. J'ai envie d'être avec mes frères et sœurs. J'ai envie de la communion. Et puis quand je vois quelqu'un, je lui dis, mais il faut que je lui dise. Ça sort, ça déborde. Je ne peux pas me retenir. C'est ce que Dieu veut. Une communion sincère, proche avec le Seigneur. Le plus important, c'est donc ma relation avec lui, honnête, offerte, dans le repos de la foi. Dieu m'aime, Dieu s'occupe de moi. Peut-être qu'il serait bien aujourd'hui de faire un petit bilan, passer un moment avec le Seigneur aujourd'hui et essayer, Seigneur, où j'en suis? Est-ce que je suis toujours, voilà, dans ton amour, dans une marche de repos, de foi, d'honnêteté, de transparence, où j'ai été accaparé par des choses qui ont fait que ça y est, ma communion est distendue, elle est relâchée avec toi. On va s'incliner dans la prière. Père, merci. Merci parce que c'est toi qui es notre pain, c'est toi qui es notre vie, c'est toi qui es notre moteur, qui nous donne soif. C'est toi qui nous aide, qui nous réveille, qui nous stimule, qui nous sanctifie, qui nous change. Seigneur, toute gloire te revient pour tes œuvres dans nos cœurs et nous avons tous besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour ne pas nous tromper de voie, pour ne pas être sur une voie de perdition. Seigneur, nous avons besoin de toi pour ne pas nous laisser aveugler par le diable, par le monde. Nous avons besoin de toi pour avoir du discernement. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à nous rapprocher de toi et à garder cette communion vraie, proche, honnête, sincère. Seigneur, c'est la vie. Aide-nous à vivre, à être vivant avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'adorons parce que tu vas nous aider, Seigneur, aujourd'hui, cette semaine. Nous te le prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.